Ah, frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, bon, c'est pas encore fini. Hein? Espérons que ça va le devenir bientôt. Alors, l'évangile que nous venons d'entendre, l'évangile de Luc, on a lu à partir du premier verset de son évangile. Et vous avez compris qu'il dit, beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous. Et puis, il continue en disant, bien, c'est pour ça que j'ai décidé, moi aussi, hein, d'écrire pour toi un exposé suivi. Et au début, dans les premiers versets, il dit que nous avons, il y en a qui ont été des témoins oculaires de ce qui s'est passé. Ah, voyez, je veux juste faire une petite à côté, là, en commençant. Quand ceux qui disent que la foi, ce n'est qu'une série de contes de fées, ben, ils ont tort. Et l'évangile de Luc nous le prouve. Il nous dit très clairement, très, très clairement, que ce qu'ils ont confiné par écrit, c'est ce que des témoins oculaires ont vu. Et ce que des témoins ont entendu. Donc, ce n'est pas tiré au hasard dans des contes de ce temps-là. Alors, frères et sœurs, ceci dit, on sait que cette année, il y aura des élections fédérales. Les partis politiques vont préparer un programme pour nous convaincre de voter pour eux. Leurs programmes sont assaisonnés de promesses visant à allécher les citoyens. Mais nous savons bien qu'une fois élu, un parti politique a souvent le réflexe de retarder ou simplement annuler leurs promesses. Mais ce n'est peut-être pas le cas de M. Trump. Lui, il veut aller au bout de ses promesses. Les mœurs politiques nous ont habitués aux promesses électorales. En tout cas, les mœurs politiques canadiennes. Mais ce que le parti ne nous dit pas, ce sont les décisions controversées qu'il prendra. Et ici, frères et sœurs, je veux vous prévenir, je ne veux offusquer personne. Votre choix de parti politique, c'est à vous. Mais j'ai droit aussi au mien, n'est-ce pas? Pour ma part, aux dernières élections, j'ai gagné mon vote. Mais je sais que cette fois-ci, je ne voterai pas pour le même parti. Après les déclarations du premier ministre qui fustige la religion parce que, dit-il, la religion empêche les femmes d'être maîtresses de leur corps, c'est-à-dire du droit de décider ce qu'elles font de leur corps, en particulier lorsqu'elles sont enceintes. Et le même premier ministre oblige les organismes religieux des diocèses à déclarer qu'ils sont en faveur de l'avortement s'ils veulent des subventions. Ça, c'est pour les camps d'été. Bon, ça, c'est moi. J'essaie de faire en sorte que mes actions et mes babines suivent mes convictions. C'est l'Esprit du Seigneur qui est là. N'ayez pas peur, il ne touche personne. Il a un radar, hein, qui dit, « Ah, il y a quelqu'un, je vais aller ailleurs. » Alors, je disais donc que mes babines et mes actions suivent mes convictions. Lorsque dans l'Évangile d'aujourd'hui, Luc annonce le début de la vie publique de Jésus, on a l'impression que ce dernier, Jésus, annonce son programme. Lui aussi a un programme. Après avoir dit que la renommée de Jésus se répand dans la région, Luc fait débuter Jésus dans la synagogue à Nazareth. Luc ne parle ni de miracles, ni de prodiges. Il nous amène dans la synagogue au moment de la prière du sabbat, une liturgie. De tout l'Ancien Testament, Luc retient un texte qui résume, à son avis, le programme de Jésus. Ce passage d'Isaïe est tiré de la fin du livre et c'est une parole d'espérance pour des gens en difficulté, qui sont probablement des gens qui ont été exilés et retenu captif à Babylone. Alors voici ce que Jésus proclame. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération et annoncer une année de bienfaits. Jésus lit le texte, ce texte qui est son programme, un programme qui se tourne vers les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les opprimés. Alors Jésus s'assoit pour commenter. On n'a aucune idée du discours de Jésus, de ce qu'il a dit, du commentaire qu'il a fait, mais on sait seulement sa conclusion. Et sa conclusion, c'est que cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Le mot que je retiens, c'est le mot « aujourd'hui ». Lorsqu'Isaïe a écrit son texte 400 ans avant Jésus-Christ, c'était pour les Juifs de retour de l'exil, comme je le disais tantôt. Ils ne savaient pas, eux, ce que l'avenir leur réservait. Ça, c'était leur « aujourd'hui ». Et les paroles d'Isaïe sont une espérance de jour meilleur. Mais voilà que Jésus reprend le même texte. Et il affirme à ceux qui l'écoutent dans la synagogue que c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit. C'est en lui, Jésus, que la promesse de Dieu se réalise, que le salut s'accomplit. Aujourd'hui, Jésus révèle ainsi qu'il est un prophète, un vrai successeur d'Isaïe, quelqu'un capable de réveiller la parole de Dieu, de la mettre en œuvre. Jésus laisse entendre que la puissance de Dieu l'accompagne. Et voilà que 20 siècles plus tard, c'est à nous que cette parole est proclamée. Nous venons de l'entendre par l'Évangile que j'ai lu. Jésus intervient dans la synagogue dans le cadre d'une liturgie. Il proclame la parole et affirme qu'elle s'accomplit. C'est ça, une liturgie. Elle réalise ici et aujourd'hui ce qui s'est produit là-bas autrefois. Aujourd'hui, en proclamant l'Évangile, nous actualisons de nouveau, nous rendons présente de nouveau la parole de Jésus et celle d'Isaïe. Nous rendons présente au milieu de nous cette parole aujourd'hui parce que Dieu a besoin de nous pour réaliser cette parole. Quand on croit, parce qu'il faut croire et il faut espérer pour pouvoir changer la réalité, donc, quand on croit et qu'on espère, on devient capable de changer, de transformer le monde, de soulever des montagnes, d'ouvrir des prisons, de consoler des affligés. Notre espérance repose en Jésus, parce que nous confessons le Seigneur ressuscité, vivant, aujourd'hui. Il est le ressuscité. Il est le vivant. Qui sont donc ces pauvres à qui cette bonne nouvelle est adressée? Qui sont les prisonniers? Qui sont les aveugles? Qui sont les opprimés? Est-ce nous? Ce qu'Isaïe annonçait, c'était le salut pour ceux et celles qui mettaient toute leur espérance en Dieu. Même chose en ce qui a trait pour Jésus, à Jésus. Il est venu appeler les pécheurs pour que, brisant les chaînes retenues à leurs chevilles par des bracelets de métal, ils investissent toute leur espérance en lui. Le programme de Jésus s'accomplit ici, aujourd'hui, de la même manière. Je veux être le pauvre à qui cette bonne nouvelle est annoncée. Je veux être le prisonnier qu'on libère. Mais il faut que je prenne conscience de mes chaînes et prendre le parti de ceux qui souffrent de la violence. Je pense en particulier aux femmes battues. Les mères célibataires, les immigrés, et ainsi de suite. Alors toi, entends-tu aujourd'hui la parole de ton Seigneur? Entends-tu dans cette parole l'appel qu'il te fait pour que, à ton tour, tu te mettes à réaliser ce programme autour de toi? Si oui, alors elle devient pour toi bonne nouvelle et elle te sauve. Et par toi, elle fait retentir à notre monde l'espérance. Par toi, le salut arrive aujourd'hui dans notre monde. Amen.